jīn tam jī jī tūng dō sī jī nī jīn tā lī mī nē bā yāng tā pār dzō bā sāng jī jī gōng bā rōng bā jī dō pār sā tē yī chē tō tāng bā chū lō tō sāng gōng sōng jī chūn bā rī jī wā nyāng bā sāng bā sāng jū chō tō tōk jī bā ngā tō tāng dā sāng bā
The whole universe is filled by sentient beings who have previously been our mothers, and for the sake of those, all of them, we should obtain the state of unsurpassable supreme enlightenment. That awakening that is neither abiding in mere peace for our own benefit nor in worldly existence. To do so, we should come to the determination in our mind saying that with diligence I want to strive for learning of the Dharma, reflecting upon the meaning and integrating the understanding through meditation. This motivation is called the Noble Bodhicitta, the enlightening mind, and with this attitude, Rinpoche requests that we should listen to him.
Donc, en pensant que l'univers entier est empli d'êtres sensibles qui ont été nos mères, et que tous ces êtres, je veux les libérer du samsara, je veux leur faire les conduire à l'insurpassable et suprême éveil, qui est un état qui ne demeure ni dans la simple paix du nirvana, qui est ni dans la simple paix du nirvana, ni dans le cycle des existences. Donc, pour les amener à cet insurpassable et suprême éveil, je vais avec diligence, avec effort enthousiaste, écouter, réfléchir et méditer sur les enseignements. Cette attitude d'esprit est appelée la noble bodhicitta, et donc c'est avec cette motivation que nous devons écouter les enseignements de Rinpoche.
Tene teren sakyu vam sob jipten sambang go be lebe sambi chu de ngai no ni chu dan chu ni number nge ba le jorwa ye nam number ya pon do du chi.
Today, Rinpoche says he wants to briefly explain something that comes out of one treatise of the Lord of the tenth Bodhisattva Bhumi, the protector Maitreya, one of his five treatises, which is called Distinguishing Phenomena from Their True Nature, Dhamma Dhammata Vibhanga. And out of this treatise, there is one verse that deals with the so-called four types of application. This is the topic of today's teaching.
Donc, l'enseignement d'aujourd'hui va porter sur un texte qui s'appelle le Dharmata Vibhanga, qui est donc un texte de Maitreya, du noble Maitreya, qui demeure sur la dixième terre de Bodhisattva. Donc un des traités du noble Maitreya, un des cinq traités principaux, et donc ce qui s'appelle distinguer entre les phénomènes et leur vraie nature. Et principalement, ça va porter sur une strophe de quatre lignes qui parle de, qui présente les quatre applications ou les quatre façons de concentrer notre esprit.
Gungdong samontang, hindu samontang, tamarikhe pandavuji.
What is the explanation of the Dhamma Dhammata Vibhaga, that treatise distinguishing phenomena from their true nature, is said to be the extremely profound intention of the fifth of the Maitreya's teaching, what is called the Dhyulama or the Mahayana Uttara Tantra Shastra. The viewpoint, the extremely profound viewpoint, is expressed in that Dhamma Dhammata Vibhaga, the distinguishing phenomena from the true nature.
Donc ce texte que Rinpoche va expliquer maintenant, qui s'appelle donc différencier, faire la différence entre les phénomènes et leur vraie nature, c'est donc dans ce texte, c'est donc ce qui est expliqué, c'est donc la profonde, l'intention profonde de Maitreya qui l'a enseigné donc dans le Dhyulama. Et donc, de nouveau dans ce texte, C'est donc son, l'intention profonde du Dalai Lama qui est expliquée donc, en détail dans ce texte.
Nichetan chuni namje le chu kunzo tan chuni ton tambe tenba hebare chu kunzo te ninam trup nama te la chu kunzo segre dordon zu nimije wa saram nimije yiam nimije wa sar la chuni ton tambe tenbe hechur.
What is called in this treatise phenomena and the true nature, or as it's said in Sanskrit, is Dhamma and Dhammata. And then what is Dhamma or phenomena is, well, in general, all that what arises as a dual world, as outer perceived environment and inner perceiver watching this environment, then this whole dually split world, this is the truth of what is just deceptively valid, deceptive truth or relative truth. And on the other hand, dhammata, or the true nature of phenomena, then is the absolute truth, that is what is genuine, real, and is, one could also say it is the primordial wisdom that is without those two. It does not fall apart in an outer world and in a perceiver, a non-dual primordial wisdom or the luminous clarity. So we have two main components. The one is the Dhamma is dual phenomena on the one side, and we have the Dhammata, the true nature of those phenomena, which is the luminous clarity.
Donc, en bref, il y a donc deux choses qui sont traitées ici. On parle de, en sanskrit, dharma et dharmata. Donc, dharma, ce sont les phénomènes, et dharmata, c'est la vraie nature des phénomènes. Donc, qu'est-ce que c'est que dharma, les phénomènes? C'est tout ce qui apparaît d'une façon duelle, donc cette dualité entre un objet que l'on perçoit et l'esprit, la conscience qui perçoit l'objet. Donc, tout ce qui nous apparaît de façon duelle, qui a cette dualité, c'est ce qu'on appelle les phénomènes, c'est-à-dire c'est la réalité apparente, tout ce qui est compris par la réalité apparente ou la réalité relative, on peut aussi dire la réalité mensongère. Donc tout ce qui nous apparaît de cette façon dualiste, c'est les phénomènes. De l'autre côté, il y a dharmata. Dharmata, c'est donc la vraie nature de tous les phénomènes. C'est la réalité absolue, c'est ce qui est vrai, ce qui est authentique. On peut aussi dire que c'est la sagesse primordiale, non duelle, donc la sagesse primordiale qui est libre de cette dualité entre la conscience qui perçoit et l'objet perçu.
Hyachor hepesena deni chunyi namji je chukunzob hechor te deni semtsang badan tenpa yimare. Karasana bakchaka topjan trusor hebare. Bakchaka topjan trusor heba te deni trusor te semtsang balongla hajang hechor yabu yimare.
Samba yimare. The way how Dharma, the phenomena, relative phenomena described in this treatise is that what is a relative phenomenon is a dual, the dual appearance of an outer world and the inner perceiver that arises through the power of our habitual tendencies. And this is the way how we dwell in the mental state of delusion. So to say the other way around, describing Dharma or relative phenomena is the way how we are relatively deluded. We are deluded by the power of our habitual tendencies to reproduce the dual appearance of outer world and inner perceiver. This explanation accords, this explanation of the relative truth or the deceptive reality accords with the explanation of the mind-only system, the Chittamata system.
Donc j'ai oublié de dire avant donc la vraie nature, cette sagesse primordiale non duelle, c'est aussi, elle est aussi appelée clair lumière. Donc la façon dont ces phénomènes sont décrits ici, donc on dit que les phénomènes sont donc duels, il y a cette dualité, et cette dualité apparaît à cause de nos tendances habituelles que nous avons accumulées dans notre esprit, ces tendances habituelles qui donc forment une confusion dans l'esprit qui fait que notre esprit est confus et voilé. Ou on peut aussi dire d'une autre façon que à cause de notre confusion, à cause de l'esprit confus, de l'esprit voilé, de l'esprit qui donc, ne voit pas les choses de la vraie manière, cet esprit confus donc produit des tendances habituelles, et ces tendances habituelles de penser de façon dualiste. Donc on peut donc expliquer un peu de deux façons différentes. Et cette manière d'expliquer les phénomènes correspond à l'explication que donne l'école des Chittamatrines ou l'école de l'esprit seulement.
Nyamnyong de karasana ngatso mati seka ni kubiyare tene ni kubakapso malam mandavatangre malam teso tso nimu pakya latin den semo malam tangore nimu ngatso namakya ombakapso namka sagong dadang yin zugda terorism nama mandavakya kendo Malam je kapsu yan, tetang tumbari kharba sena, nimi pakya latinbe, trunanga kharchor yobare, tisena ngasu pakya latine, trupa kharchor de nyamnyung yobe sena, tine semchambe, tine pakya latin den trusor kheba de, la andreva yabu yungyere.
The way how we dwell in the state of delusion is by the force of our habits or our habitual tendencies, is something that we can study or that we have our own experience about. Actually, we spend maybe half of our life in sleep, and during the sleep we have dreams. The experience in dreams is mainly based on the experience of the waking state, so it reproduces what we have planted as habitual tendencies during the waking state is kind of played back in the dreams. In the same way as like in the daytime experience, we usually see, we have like appearance of space, there is ground of the earth to walk on, we have the sun shining, we have the idea of ourselves and others and so on. And the same we find in dreams. We also have an earth to walk on. There is space. There is a sun rising, and there we are ourselves, and we find others. So this reproduces the habitual tendency coming from the impressions that we have stored during the daytime. And this explanation is very much in accordance with what is explained in the Chittamata system, the mind-only system.
Donc, pour expliquer un peu cet esprit donc confus, cette confusion de l'esprit, donc on demeure continuellement dans cet état un peu de confusion à cause des tendances habituelles que nous avons accumulées. Dans la plupart, on passe pratiquement la moitié de notre vie à dormir, et donc quand on dort, on fait des rêves, on rêve, et tout ce qui nous apparaît dans le rêve, tous les objets extérieurs qui apparaissent dans le rêve sont en fait basés sur notre expérience, sur l'expérience qu'on a eue pendant le veille, c'est-à-dire pendant dans la vie quotidienne, tout ce qu'on a expérimenté dans la journée, on va le retrouver donc dans le rêve. Donc c'est un peu la même manière que ça se passe, c'est-à-dire toutes les tendances habituelles, tout ce qu'on a vu pendant la journée, va s'accumuler et pendant la nuit, quand on rêve, on va reproduire, ces choses-là vont se reproduire. Exactement, donc comme dans la journée, il y a le ciel, il y a le soleil, il y a la terre, il y a l'idée de, enfin, l'apparition de nous et des autres. Exactement de la même façon, dans le rêve, on va retrouver les mêmes choses. On va rêver au ciel, à la terre, au soleil, on va rêver à nous-mêmes et aux autres. Donc c'est la même chose qui se dans le rêve, c'est les choses qui sont passées dans la vie quotidienne, dans la journée, qui se reproduisent. Et cette façon donc d'expliquer la confusion qu'il y a dans notre esprit est en accord avec cette école, l'Eshitamatrine, qu'on appelle aussi l'école de l'esprit seulement.
Dhammata is then the true nature, say the true nature of those phenomena, and the way to explain this, it is described in the text itself here as the Dhamma Dhatu, the whole the expanse of phenomena that is beyond the duality of outer world and inner perceiver, and it is beyond expression and something to be expressed, or someone to express it. It's beyond someone to express something and something to be expressed. And this way of describing the ultimate nature, the reality, is very similar to what is the viewpoint of the Madhyamaka, the Chittamama.
Donc maintenant pour parler du dharmata, donc la véritable nature des phénomènes, on dit aussi que c'est, donc il est dit dans le texte que c'est le dharma dhatu, que c'est le... que ce sont donc les, je ne sais pas comment on dit, expense, l'étendue des phénomènes qui sont donc au-delà de toute dualité, au-delà de toute expression et de quelqu'un qui voudrait l'exprimer. Et cette façon d'expliquer donc la vraie nature des phénomènes comme étant dharma dhatu, comme étant une étendue de phénomènes au-delà de la dualité, c'est une explication, une façon d'expliquer qui correspond à l'école du Madhyamaka.
If we explain this true nature of phenomena to be the vast expanse of all phenomena, Dhamma Dhatu, that is free, totally free of all kind of mental elaborations as to an outer world and an inner perceiver, free of all dual elaboration of concept, then this explanation is in accordance with the prasangika system of Madhyamaka. When then the true nature is explained as the primordial wisdom that is free of duality, then, or empty of duality, then this explanation would accord with the Shenton Madhyamaka view, that viewpoint saying that the true nature is free of anything different from itself, free of any stains.
Donc, encore une autre façon d'expliquer, si on dit que cette vraie nature des phénomènes, ce dharmata, c'est l'étendue vaste des phénomènes qui est au-delà de toute élaboration mentale, de toute fabrication mentale, qui est donc au-delà de tout concept dualiste d'un esprit qui perçoit, de la conscience qui perçoit et d'un objet qui est perçu. À ce moment-là, cette explication correspond à l'école prasangika, Madhyamaka. Et si on dit que cette étendue vaste des phénomènes, ce dharmata, et la sagesse primordiale libre de dualité, qui est aussi libre de toute impureté, qui est libre de quelque chose qui lui soit, qui est extérieur à elle-même. À ce moment-là, cela correspond à une explication, l'explication correspond à l'école des Shentong.
In the Prasangikama, Dhammaka, genuine reality or absolute truth is explained as mainly that vast extent that is its expanse, which is empty of any mental elaboration, conceptual elaboration. Whereas in the Shentong Madhyamaka, the genuine reality or absolute truth is mainly explained to be primordial wisdom, empty of duality.
Donc, d'après l'école des Prasangikas, donc il est dit que la réalité absolue est l'étendue vaste qui est vide de toute élaboration mentale. Alors que dans l'école des Shentong, la réalité absolue, c'est la sagesse primordiale qui est libre de toute dualité.
But the way how it really is, the real way of existence is that the vast expanse and awareness are both inseparable. Explaining the inseparability of the vast expanse and the awareness, then this explanation is the explanation of the Mahamudra or Dzogchen.
Donc, si on explique encore d'une autre façon, en disant que cette étendue vaste des phénomènes et la connaissance sont indifférenciés, alors cela correspond à l'explication du Mahamudra et du Dzogchen.
So to explain today mainly the four types of education, there is a root verse in four lines that explains those. There is the application of focus or orientation. Secondly, the application of that there is nothing to focus on or nothing to be seen. And thirdly, the application of focusing, the application of that the focuser or the focusing mind is not to be found, itself not an object of focus. And fourthly, to focus on what is not to be found.
Donc il y a quatre lignes dans ce de texte. C'est assez difficile à traduire, alors je vais plutôt donner le sens, parce que c'est trouver les mots justes, c'est un peu difficile. Donc on parle de quatre façons de se concentrer, quatre façons de diriger, de focaliser son esprit. Donc la première, c'est de se concentrer. De se concentrer avec un objet de concentration, donc. La deuxième, c'est de se concentrer quand il n'y a pas de point de référence, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas d'objet sur lequel l'esprit se concentre. Le troisième, c'est une façon de se concentrer où on ne peut pas trouver de personne qui se concentre. Il n'y a personne qui se concentre. Et la quatrième, c'est une façon de se concentrer sur un objet qui n'est pas visible. Mais ça va devenir plus clair avec les explications.
In the first type, called the application, that is the orientation or focus, it is to see that what presently arises to our sense faculties as the objects of our perception, we have forms, we see forms, we have sounds, there are smells, taste and tactile sensations, and those could be either pleasant, they could be unpleasant, they could be neutral. So there's a whole multitude of various objects and appearances or experiences that we find ourselves in. And however, all what arises here presents itself to our as the object of our perception is but deluded appearance. It's just a mere delusion. It is a delusion that arose through the power of our habitual tendencies. It is a habitually reproduced delusion. From beginningless time, from time without definite start, we are in this process of imprinting again and again this habit of seeing it in this way, seeing it as outer objects as opposed to in a receiver. We have this very solid habitual tendency that produces the appearances right now. So it is. We can see, actually, this serves as a reason to say why what we see right now is just delusion. It is because what we see now is the result of our own habitual imprints in mind. This is the reason why, because we have this solid imprint in mind, habitual tendency, what we see right now is a deluded appearance, is delusion. And gaining confidence about this, that what we see and experience right now is just a mere delusion is delusive appearance, this confidence is what called here the application of the of what is orientation or focus. Actually, it means to focus on one's experience, or one's whatever appears to oneself as being just a mere result of one's habitual tendency to be just delusive appearance. This is the explanation which is in accordance with the Chittamata system. So one can say it in short, application of which is orientation, or explication of orientation, means the confidence in that what we experience is just a delusion.
Donc en bref, ce que cela veut dire, donc la première sorte de concentration ou d'application, c'est une façon de se concentrer sur ce qui apparaît comme étant le résultat des tendances habituelles qui provient de notre confusion. Donc c'est, en bref, c'est ce que ça veut dire. Donc pour expliquer un peu plus, donc tous les objets extérieurs qui nous apparaissent, les objets qui proviennent donc des facultés des sens, c'est-à-dire toutes les formes que l'on voit, tous les sons que l'on entend, toutes les odeurs que l'on sent, tous les goûts, les saveurs que l'on goûte, et toutes les sensations que l'on a avec notre corps, toutes les sensations du toucher. Donc tous ces objets extérieurs qui nous apparaissent, tous ces objets de perception, en fait, ce sont des illusions. Ils apparaissent dus par la force, par le pouvoir des tendances habituelles que nous avons donc accumulées dans notre esprit depuis des temps sans commencement. Ces tendances habituelles donc, se sont solidifiées. Ce processus, cette façon de voir les choses de façon duelle, c'est solidifié, c'est accumulé au fur et à mesure depuis des temps sans commencement dans notre esprit. Et donc cela est la raison pour laquelle maintenant on voit les choses de cette façon. Pourquoi on voit les choses comme une illusion? Pourquoi il y a cette confusion dans l'esprit? À cause de ces donc, tendances habituelles qui se sont accumulées depuis des temps sans commencement, à cause donc de ce processus, cette façon de voir les choses de façon duelle. Donc c'est donc le résultat de toutes ces tendances habituelles accumulées fait que maintenant il y a cette confusion dans l'esprit et fait que on voit tous les objets extérieurs comme des illusions. Ce qu'il faut faire donc, c'est avoir la ferme conviction que ce qui nous apparaît donc est une illusion. Et cette ferme conviction, demeurer concentrée avec cette ferme conviction que ce qui nous apparaît est seulement des illusions et que c'est seulement le résultat des tendances habituelles qui provient de notre confusion, c'est ça dont on parle ici, donc c'est cette façon de se concentrer. Et cela est en accord avec l'explication de l'école des Chittamatra.
Sriyor yorje nāwa te dhruna yinpa jumtsiṃ karre. Pākhya ka nāwa yinpa sena dhruna. Pākhya te kawa yāpar. Pākhya kuñjila yāpar. Kuñjila pākhya su yāpar. Dāngzhen dāng kyepa simki yāpar. Si kyepa kāpso, tini rambhan rāwa te sarpo yungare, dhruna te karasa. Rambhan rāwa te sarpo yāpa sena, dhruna yinpa yīchi pala.
So whatever we experience, what is the world of our appearance, is just delusive appearance. It is a delusion. And why? It is delusion because it all arose through the power of our habitual imprints in mind. So who was actually gathering all those habitual tendency? It is the mind that is related to the belief or clinging to the existence of an ego or self-entity. The mind joined with the idea or belief in the personal self-entity, this mind is the one that accumulates the habitual tendencies. Explaining it in this order, then it becomes clearer.
Donc, absolument tout, toutes les manifestations, toutes les apparences, tout ce que l'on expérimente, donc, ce sont seulement des illusions. Et ces illusions, cette confusion apparaît à cause des tendances habituelles que l'on a accumulées. Et on peut se demander donc qui accumule toutes ces tendances habituelles, comment ça se passe. Et donc c'est l'esprit, l'esprit qui saisit le soi, qui accumule toutes ces tendances habituelles. L'esprit qui est donc relié à la saisie du soi, à l'esprit qui saisit une entité comme existant réellement et comme étant le soi, c'est cet esprit-là qui rassemble toutes ces tendances habituelles.
To say it in short, because arisen through our to the power of our habitual tendencies in mind, whatever appears as the outer objects of our senses is but a mere delusion, is delusive appearance, and gaining confidence, certainty in this fact is called the application, which is focus or orientation.
Donc, pour résumer cela, à cause, provenant donc, ou à cause du pouvoir des tendances habituelles, tout ce qui nous apparaît, tous les objets extérieurs qui apparaissent à nos cinq sens sont des apparences illusoires, et acquérir la certitude de cela, c'est ce qu'on appelle donc ici l'application avec un objet de concentration ou la façon de se concentrer qui elle-même est un objet de concentration. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose d'après-midi qui soit plus clair.
By the reason that whatever appears to our senses is a mere delusion, is delusive appearance, that by this reason, then those appearances perceived cannot exist outwardly, have no outer material reality. This certainty is then called the application of nothing to be found or nothing to focus on, the second application.
Donc, puisque on a vu que tout ce qui apparaît à nos sens sont seulement des illusions, des apparitions illusoires, des manifestations illusoires. Donc, à cause de cela, donc, toute la réalité extérieure, tous les objets extérieurs n'existent pas réellement, ne peuvent pas exister réellement. Et acquérir la certitude de cela, c'est donc ce qu'on appelle la deuxième forme d'application, qui est l'application ou la pratique où il n'y a pas d'objet extérieur, il n'y a pas d'objet de concentration, il n'y a pas de point de repère.
Mais maintenant,
In the dream experience, we have two types of confidence. We have one, for one, we have the confidence that the object of our perception to exist outside as in the outside as some material phenomenon, material object. And then there's the confidence in that there are no other objects. At the time when we do not realize that there is a mere dream going on, we have the confidence that whatever we see really does exist outside the materially present. However, when we become aware of that it is a mere dream, then at this moment we have the confidence that whatever appears to us is not materially existent in an outer world.
Donc dans le rêve, on peut avoir deux sortes de certitudes, de croyances. Donc on peut croire que l'objet extérieur que l'on perçoit dans le rêve est réellement existant, qu'il est là, qu'il existe même d'une façon matérielle, substantielle, ou on peut aussi penser qu'il n'y a pas d'objet extérieur qui existe, et ça c'est donc par rapport au fait si l'on reconnaît que l'on rêve ou si on ne reconnaît pas que l'on rêve. Donc si on est pris dans le rêve, qu'on ne s'aperçoit pas que l'on rêve, à ce moment-là on pense vraiment que ce qu'on rêve est vrai. Donc cet objet extérieur que l'on perçoit dans le rêve, on pense qu'il existe réellement. Mais quand il arrive que tout d'un coup on s'aperçoit que l'on rêve, on dit « je suis en train de rêver », à ce moment-là, si on reconnaît que l'on rêve, on reconnaît automatiquement aussi, on sait que cet objet extérieur n'existe pas réellement, qu'il n'existe pas en tant que matière, que substance, qu'il est seulement une illusion, seulement un rêve.
The third type of application then is called the focuser not to be seen. And it is because everything that we see is just arising through the power of our habitual tendencies, being just a mere illusion, but it does not exist outside. It does not have any outside material reality. And since there are no outer objects materially existing, it is just a mere delusion or delusive appearance, then a focusing mind, this means here, like the perceiving sense consciousness, perceiving sense consciousness of outer objects can't exist either. A perceiving sense consciousness has to be always a consciousness that perceives an object, has to be conscious of something, and if there is no reference for that consciousness outside to be found, there is no materially existing outer object, then a mind focusing on an object can't exist either. The confidence to this fact The confidence in this fact is called the application of the focusing mind, not to be seen or not to be not visible.
Donc la troisième sorte d'application, c'est une application, une façon de poser son esprit dans laquelle il n'y a personne qui se concentre, il n'y a pas donc d'esprit qui se concentre sur un objet. Et pourquoi? Parce qu'on vient de voir, donc celle troisième découle de la deuxième, comme la première découlée de la deuxième découlée de la seconde, puisqu'on vient de voir qu'il n'y a pas d'objet extérieur qui existe réellement. Puisque les objets extérieurs qui sont perçus par donc, les cinq sens ne sont que des illusions. Donc ils n'ont pas d'existence réelle, n'existent pas en tant que substance, quelque chose de matériel. Puisque les objets extérieurs n'existent pas réellement, il ne peut pas non plus y avoir de conscience qui perçoit ces objets. Donc la conscience intérieure qui se concentrait sur ces objets n'existe pas non plus. Donc cette conscience mentale ne peut pas exister, parce que pour qu'une conscience mentale qui perçoit existe, il faut qu'elle ait un objet à percevoir, il faut qu'elle ait quelque chose sur lequel se concentrer, qu'il faut qu'elle ait un objet. Si elle n'a pas d'objet, si l'objet n'existe pas, cette conscience mentale ne peut pas non plus exister, puisqu'elle n'a pas de point de référence, puisqu'elle n'a rien sur lequel se concentrer. Donc, acquérir la certitude de cela, c'est ce qu'on appelle donc, l'application où il n'y a personne qui se concentre, où il n'y a pas de conscience mentale qui perçoit.
If a perceiving object really exists, then the mind perceiving that object, the perceiving consciousness, has to exist as well. If, on the other hand, the perceived object does not have a true material existence, how can the mind perceiving this object have?
Donc, si l'objet perçu existe réellement, automatiquement, il y a aussi une conscience mentale qui perçoit cet objet. Mais s'il n'y a pas de conscience mentale pour percevoir, donc il n'y a pas non plus d'objet qui est perçu, qui existe réellement.
Perceived and perceiver, perceived object and perceiving mind is the way how commonly referred to are the way of how we perceive this world. However, this is a very coarse approach. If we take a close look, is there one thing that is perceived? Let's say we take form. Is there one form that is perceived, one perceived object? No. There's so many different forms. There isn't any one form as the perceived object. And also sound. Is there any sound, one sound as the perceived object? No, there's so many different sounds and classifications that there is no object as such that we could call the perceived object. Finding like this, then for the mind as well, perceiving mind, there isn't just one perceiving mind. There are so many different ways of how mind can perceive and hold to objects that we can't just put it into one entity. So taking a close look at what we commonly call perceived and perceiver, perceived object and perceiving mind, we have to admit that both of them are beyond the one and the many. They do not really exist as such, as a single entity.
Donc, on a vu tout à l'heure, on parle de, d'un objet qui est perçu et d'un, d'une conscience qui perçoit l'objet. Donc ça, c'est la façon dont on... la façon d'expliquer, donc, en général, la façon de percevoir. On dit qu'il y a un objet extérieur et une conscience qui perçoit, mais c'est en fait une façon très grossière d'expliquer les choses. Parce que si on regarde un petit peu de plus près et on se dit, bon, alors l'objet qui est perçu, qu'est-ce que c'est ? Que cet objet qui est perçu, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un objet, est-ce qu'on peut trouver un objet qui est perçu? Par exemple, si on prend l'exemple de la forme, est-ce qu'on peut trouver une forme qui existe en tant qu'unité, une seule forme qui est perçue? Non, ce n'est pas possible parce qu'il y a des quantités de formes différentes, une forme même peut-être divisée en beaucoup de... peut avoir beaucoup de divisions, on peut le diviser en beaucoup de choses différentes. Donc il n'y a pas une seule forme, on ne peut pas trouver une forme qui existe comme un, qui serait comme un, qui existe en tant qu'objet perçu. De la même manière pour le son, on ne peut pas dire qu'il y a un seul son, parce qu'il y a énormément différentes catégories de sons. Donc on ne peut pas trouver un objet perçu, dire ça c'est un objet qui est perçu. De la même manière, qu'est-ce que la conscience qui perçoit? Est-ce qu'on peut trouver une conscience qui perçoit? Non. De la même manière, quand on regarde de plus près, on ne peut pas trouver une seule conscience qui perçoit parce qu'il y a des tas de consciences différentes. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'objet perçu, il n'y a pas de conscience qui perçoit, on ne peut pas trouver, on ne peut pas trouver une seule, un seul objet perçu et une seule conscience qui perçoit.
Understanding that all perceived phenomena and perceiving minds do not exist as one or as many, the perceived and perceiver are beyond one and many existence as a unity or multitude. This is applying the first of the five principal logical reasonings presented in the Madhyamaka system. This logical reasoning is called discerning the essence of phenomena and finding them to be beyond one and many, and saying that since they are one beyond one and many, they cannot have a true existence. So this is here applied to perceiver and perceived. Looking for the essence of what is perceiver and perceived, we find them both to be beyond one and many. And being like this, they cannot have a true independent existence as such. Actually, this logical reasoning discerning the essence, finding them beyond one and many can be applied to any phenomenon in samsara and nirvana. Each and any phenomenon, this reason can be applied to.
Donc quand on voit que, quand on comprend que tous les phénomènes que l'on perçoit, qui sont perçus, et toutes les consciences qui perçoivent, n'existe pas en tant qu'unité, en tant que chose unique, mais n'existe pas non plus dans la multiplicité, n'existe pas non plus comme étant plusieurs. Donc on dit que ils sont au-delà d'un et de plusieurs. Donc tous les phénomènes sont au-delà d'un et de plusieurs, c'est-à-dire qu'ils n'existent ni d'une façon unique ni d'une façon multiple. Et donc tous les objets qui sont perçus, toutes les consciences qui perçoivent, n'existent ni d'une façon unique ni d'une façon multiple. Et donc cela, ça s'appelle le raisonnement au-delà d'un et de plusieurs, qui est un des cinq raisonnements principaux, raisonnements logiques principaux, qui est utilisé dans l'école du Madhyamaka. Et un des cinq, c'est le premier des cinq raisonnements logiques. Donc c'est le raisonnement logique qui distingue l'essence des phénomènes. Et donc, puisque les phénomènes sont, puisque leur essence, leur nature est au-delà d'un et de plusieurs, au-delà de l'unité et de la multiplicité, ils ne peuvent pas avoir d'existence réelle. C'est cela donc le raisonnement logique, étant donné que tous les phénomènes sont, que leur essence est au-delà d'un et de plusieurs, ils ne peuvent pas avoir, ils n'ont pas d'existence réelle, ils ne peuvent pas exister réellement. Et ce raisonnement logique peut s'appliquer à tous les phénomènes du samsara, à tous les phénomènes, on peut appliquer ce raisonnement, dire que tous les phénomènes donc, sont au-delà d'un et de plusieurs, parce que puisqu'ils sont au-delà d'un et de plusieurs, ils n'ont pas d'existence réelle.
The great Kenpo on Chantarakshita, he has composed one treatise that is called The Ornament of the Middle Path. And this treatise is entirely based on this reasoning, presents this reasoning in the beginning that all phenomena cannot have a real true existence since there are beyond one and many, there are neither one nor there are many. And in the following part of this treatise, this reason is unfolded in detail.
Donc, Chantarakshita a donc écrit un traité qui s'appelle L'ornement du chemin du milieu, dans lequel il explique de façon très détaillée donc, ce raisonnement d'au-delà d'un et de plusieurs. Donc, il dit, donc, au début de l'ouvrage, il dit les phénomènes n'existent pas réellement parce qu'ils sont au-delà d'un et de plusieurs. Et donc, ensuite, tout le livre, tout le commentaire va expliquer en grand détail. Ce raisonnement au-delà d'un et de plusieurs.
Yin sir matepa namje denbar khe lam ngupodata dada yin ngundata rande namba sanje pada yin de sir pa namje denbar denrup to khe lam ngupodata rang yin ju topar khe lam ngupodata rang yin ju topar khe lam ngupodata rang yin yo ma jim sin kar rang yin to ne chikpa ta to me rang yin travesel Rikpe che na chik maato pare Mupo tham che jinaane tambo dendrop chik thoko mato Chik denpar patropa maato pa se na yenda chikwa re Tuma yang maato pare chik da tuma rangyin le Dere se na rangyin ki maato pare Pen na zungyin ki Zungyin mada wa na na Zungyin je nang ni Melong nang ke zungyin kya na Zunyi ti nani chik denpa trupa to na yenda yang denpa trupa re, toma yang denpa trupa. Ti nani chik denpa trupa mato pa se na toma yang denpa mato pa te yendo se jite pel. Are rangyin ni de zunyi.
So the first verse of this treatise goes like this. It says, what is asserted by ourselves and others, the objects or functionable entities are in their nature free of being one, as well as they are free of a nature as many. Because of this, they have no nature, like a reflection. So, to explain the meaning of this verse, then the objects or functional entities that are asserted by ourselves and others. Ourselves means the followers of the Buddhist path, the various different systems of thought or tenet that could be held in the Buddhist path. And others refers to those who are not Buddhist. So there are various ways of how they could actually postulate the existence of things to really exist, to have a true, valid existence. And all those phenomena or functional entities and objects, they are said to have no essence, no nature of themselves. Why? The reason is actually given first, by saying that they are in their nature, they are not one, and they are free of having a nature as many. And because they are in the nature, they are not one, and they are free of having a nature as many, because of this reason then, they do not have a true nature. And what are they then? They are, for example, this is the supporting example, they are, for example, like a reflection in the mirror that clearly appears but is devoid of a substantial reality.
Donc on parlait de ce texte de Shantarakshita, donc l'ornement du chemin du milieu, donc dans ce livre. Donc on a dit au début, il exposait donc ce raisonnement logique. Donc le premier vers, le premier strophe de ce texte dit quelque chose comme ça. Ce qui est affirmé par nous-mêmes et par les autres, les choses sont par nature libres d'être libres d'unicité ou libres d'être un, donc n'existent pas en tant que chose unique, et ils ont aussi la nature, leur nature est aussi libre de multiplicité, ils n'existent pas en tant que chose multiple. Parce qu'ils n'ont pas. Donc, la première chose, c'est donc la raison. Donc, parce que ces choses, donc, par nature, sont libres donc, d'unité et de multiplicité, parce qu'ils n'existent pas en tant que chose unique, ni en tant que. Choses multiples, à cause de cela, ils n'ont pas d'existence réelle, ils n'ont pas de nature réelle, exactement comme le reflet dans un miroir, comme une forme vide, comme quelque chose qui apparaît mais qui est vide, exactement comme le reflet dans un miroir. Donc, pour commenter un peu cette strophe, ce qui est affirmé par nous-mêmes, donc nous-mêmes, c'est ici donc le chemin. Bouddhistes, tous ceux qui suivent le chemin des bouddhistes, toutes les différentes écoles philosophiques, les différentes écoles philosophiques, Les autres, c'est donc tous ceux qui ne sont pas bouddhistes, et donc aussi bien donc les bouddhistes que les non-bouddhistes, donc affirment que les objets n'ont pas d'essence, pour prendre les choses à l'envers, les objets n'ont pas d'essence, n'ont pas de nature propre, parce que dans leur nature, parce que leur nature même est d'être libre et d'être au-delà de l'unité et de la multiplicité. Donc il n'existe pas comme quelque chose d'unique et n'existe pas non plus comme quelque chose de multiple.
In Tibet, the yogini that is the supreme of all yoginis and is much loved them. And usually yogis or yoginis in their life story, you can find that they gain liberation based on the profound instructions, oral instructions. However, Majik Labdrön gained liberation based on the Buddha's word. She was able to read the entire extensive form of the Prajna Paramita, consisting of 12 volumes in one day. So all the 12 volumes of the Prajna Paramita, the transcendent perfection of wisdom, she was reading once a day, means 30 times a month. And when there is then, in this explanation of the Prajna Paramita, it is said that form is not a form is not red, form is not white, and so on. Form is not square, form is not triangle, form is not round. And when reading those words, then she gained the liberation by realizing that form, actually what we call form, doesn't exist as form, it is not one. There is such a variety, such a multitude of what all we call form, that it does not exist as one. There isn't a form. There isn't form as such. Finding this manifold, then this excludes the idea of form being one. And if we do not find even a one to exist, then how can it exist as a many? But this is the then representing that reasoning of being beyond one and many. So she was liberated by understanding through reading the description of what is a form. That form is beyond one and many, but form doesn't exist as form. It doesn't have a way of being.
Donc au Tibet, la yogini la plus excellente, la plus suprême, c'était Majik Labdrön. Et Majik Labdrön, donc normalement, la plupart des yogis donc atteignent la réalisation en donc se basant sur les instructions orales qu'ils ont reçues de leur maître. Mais Matthew Cadron était un cas exceptionnel. Elle a atteint la réalisation à travers, par les paroles du Bouddha, c'est-à-dire qu'elle était capable de lire la Prajnaparamita, toute la Prajnaparamita entière, qui donc comprend 12 volumes, en une seule journée. C'est-à-dire qu'en un mois, elle avait lu 30 fois la Prajnaparamita. Et donc, dans la Prajnaparamita, il est dit la forme n'est pas rouge, la forme n'est pas blanche, la forme n'est pas ce qui est carré, la forme n'est pas ce qui est triangulaire, la forme n'est pas ronde. Donc, en lisant cela, Matthew Cadron a atteint la libération, atteint la réalisation, parce qu'elle a compris donc que la forme n'est pas unique. Donc, il est vrai qu'il y a énormément de différentes formes. C'est évident, on ne peut pas dire qu'il y a une forme. On ne peut pas dire ça, c'est la forme. La forme n'existe pas. Il y a énormément de formes qui existent, et donc on ne peut pas trouver quelque chose et dire ça, c'est la forme. Puisqu'il y a donc des formes rouge, vert, bleu, enfin toutes les couleurs et de toutes les formes différentes, on ne peut pas dire la forme. Et puisqu'il n'y a pas une forme qui existe en tant que telle, il ne peut pas non plus y avoir beaucoup de formes ou une forme qui existe d'une façon multiple. Donc cela, c'est pour illustrer donc ce raisonnement logique au-delà d'un et de plusieurs. Il n'y a pas une forme, il n'y a pas non plus plusieurs formes qui existent réellement.
De che pa te a nam do ge zo ce de zo ki sang ba kap so jing zhen ji nam do ji ge de zo ki nam do ji ba kap ye ji de ji den zhen ba nam do ji ba zo ki po te ka de te la ta ki tang ge ye tang tang de ra ba ta zo ki jing zhen ji nam do ji ba kap so zo ki te ka re se de ta kar po de re sam na sam ge ma re yin yin ka se sam ba yin na te la karpo te la tuji yeva tan soji yeva nire tuji yeva te depe zo ghatsa so karpo maumba karpo che mando tatarve karpo kichik chik neg mare gaand ogre te se na tu somje ye na karpo te karre karpo karre soji ye na tuji yeva mare depa dang maumba depa ga cha so depa karpo ga cha so maumba karpo che ma to tat karpo re sam na tat karpo so ji ye bare kha lo no san kha lo no zang ge te ne karpo na cho pa che re karpo ye ban tha ye bare sta kha lo no zang ge karpo a yang na so che ye karpo so che ye karpo yung re so che ye karpo te karpo hi pe chik te so chyo hi karpo kar re yang kye na yang yotu go yo mar te se na karpo yang mar ro karpo chik me mar ta tun re sam na ta de ten chik to ra chi ten se de de mar be
yula
ta chi ta
yula
ta ki ta sa ta po nam to ki chik sam nam to re re ta ching
So what does it mean that form is beyond the way of being as one or many? Actually, when we say form, at the very moment we say form, there is a thought arising that believes in the form to be one. So this is the way how we should start with our research or observation. There's a thought, a concept arising, clinging to form as an entity. We say form, and there is this thought believing in form as an entity, as a one. Okay, now we can start with this research and we look at what is this thought actually clinging to, this form as a one. Maybe we have when we say form, maybe form arises as the idea of a white. However that might be, let's say it would be white, then we start with the research on white. Okay, what is this white then? We do a research either in the extent of the space or direction. So we can also do the research in terms of time. Starting with the time, we find Well, out of the many possibilities, the white of the past is already gone. So we have not to concern with this anymore. The white of the future hasn't arrived yet. So no need to bother with this. Then what about the white of the present? And if you look, what is actually the very present moment of white? We can't really get hold of it. There isn't really what we can grasp to and say, oh, this is the white of the present. There would be one way of doing it. The other way would be saying, okay, the past white is gone, the future hasn't arrived yet, so now I'm looking for the present white. So the present white must be somewhere there, and it has to be there in terms of space or extent into directions. Mm. So this could be divided into parts belonging to the east, north, south, and the west, and so on. Or we could say, well, we're looking for white, and what does white mean? White in the 10 directions. Mm. Which white actually we do mean? And taking a close look at what is then this white that we are thinking of, we do not really find anything we could express anymore. Thinking of white in the 10 directions or the different parts of white that we could divide it into, then there isn't anything that we could express anymore as this is the white that we mean. So the result of this research is that we do not find any one single reference for that thought. There is this thought living into form and white as one, but we do not find any one reference point for this. If it proves that form is not the one, we do not find one reference, then how could form exist out of many? Because one is not true, then it cannot be true as an object. So it shows to be beyond the way of being as one and the way of being as many. Thus have no way of being.
Donc, encore pour expliquer plus en détail ce raisonnement logique qui dit que la forme est au-delà d'être existée en tant que chose unique et aussi qu'elle n'existe pas en tant que chose multiple. Donc, pour prendre l'exemple de la forme, quand on pense à une forme, il y a un concept, il y a une pensée qui croit que la forme est unique et est une entité unique. Quand on perçoit une forme, il y a un concept, une pensée qui saisit la forme comme ayant comme étant une. Et donc on peut essayer d'observer, il faut faire une recherche, essayer d'observer. Donc au moment où je vois une forme, et si il y a cette pensée qui perçoit la forme comme étant une, cette pensée, sur quoi qu'est-ce que c'est qu'elle saisit comme étant une? Quel est l'objet de sa saisie? Cette pensée qui dit cette forme est une, qu'est-ce qu'elle saisit? Quelle est cette forme qu'elle saisit comme étant une? Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, du blanc, si je regarde quelque chose et que je me dis, bon, cette forme que je perçois comme une, c'est le blanc. Donc, qu'est-ce que c'est le blanc? Si on essaie de trouver ce blanc, il y a deux étapes différentes. D'abord, on va essayer de trouver ce blanc, cette idée de blanc, dans le temps. Donc, si je dis qu'il y a du blanc qui existe, donc où est-ce qu'il existe ce blanc? Est-ce qu'il existe dans le passé? Non. Parce que s'il y avait eu un blanc qui était dans le passé automatiquement est déjà terminé, donc il ne peut pas y avoir de concept de blanc dans le passé. Dans le futur, ce n'est pas possible non plus parce que le blanc du futur n'est pas encore apparu, il n'est pas encore là, donc il ne peut pas exister dans le futur. Donc on peut dire, bah oui, il reste encore le blanc du moment présent. Donc ce que ma pensée saisit, c'est le blanc qui existe dans l'instant présent. Donc, la deuxième étape maintenant de cette recherche, c'est de voir ce blanc, où est ce blanc du moment présent, où est-ce qu'il est dans l'espace. S'il existe, il doit être quelque part, il doit être quelque part dans l'espace. Donc, je vais faire cette recherche par rapport à l'espace, par rapport aux différentes directions. Donc, je vais voir si ce blanc existe à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc. Où est-ce qu'il existe par rapport aux directions de l'espace. Et en faisant cette recherche, donc, je vais voir que on peut, ce blanc du moment présent, on peut le diviser en infinies divisions. Et on arrive à un moment donné où on ne peut plus le trouver, on ne peut plus, on n'a plus de moyens pour exprimer ce blanc du moment présent. On ne peut pas le trouver parce qu'on a divisé en manière aussi infime qu'on ne peut plus exprimer. On ne peut pas le trouver, on n'a pas de moyens pour exprimer ce blanc du moment présent, donc il n'existe pas. Donc s'il n'y a pas de blanc du moment présent qui existe comme point de repère, donc la forme ne peut pas exister. Donc si la forme n'existe pas comme unique, comme quelque chose de un, s'il n'y a pas, si ce blanc n'existe pas, si cette forme n'existe pas, il ne peut pas non plus exister en tant que multiple.
So let's say we're sitting in front of a white flower, staring at that white flower, and what about this white that we actually see? Well, there is a white, we say. But actually, if we take a close look, what? We have the idea of white. But what our eye is looking at is the referent of the name white. There is not the name white the eye is looking at. When we have a name white, and that what the name white is given to, what it refers to, this is what the eye is actually looking at. So it's the basis for applying a label, and it's not the idea of the white or the concept of white that we're looking at. And furthermore, then this flower has many petals. So the blossom actually has many petals, and there is not one, there are many. And to see it as one flower, as one white blossom or one flower, is just by connecting those parts together through ideas or concept. Looking at it, there is actually many different parts. And even one petal could be analyzed into having many different parts. There is not one white petal. Even that petal has many different parts and sections. In each section we could subdivide more and more. And let's say we come to even like particles that form that petal. Those particles, actually any given particle, we could, since it exists in a three-dimensional space, then we could divide it up according to its directions in space. So that particle proves to have subparticles, and those subparticles again have subparticles. So a process that goes without end, goes ad infinitum, and we never find one single white that we can actually call, this is the entity that we want to give a name to. So doing this research with the object that we think is a white, that one white thing in front of our eye, we actually find there is no such one white thing. There is something that is beyond our expression, and it does not exist as a one single thing. We do not even find one thing that we can point to. And not finding one, then that white in front of our eye cannot exist as many also. To exist as a composition of many, at least one should have a real existence, one part. If one does not, then it cannot exist as many. So its way of being is beyond one and many, so it doesn't really have a way of being.
On pourrait dire, par exemple, si je regarde une fleur blanche, si devant moi il y a une fleur blanche et que je la regarde, je vais dire oui, mais il y a du blanc. C'est évident, j'ai le concept de quelque chose de blanc. Je me dis la fleur est blanche. Mais en fait, si on observe de plus près, si on réfléchit, ce que l'œil voit, en fait, ce n'est pas le blanc. Ce que l'œil voit, c'est une base de désignation pour le blanc, ou c'est une base de désignation sur laquelle après on va ajouter le nom fleur ou fleur blanche. Donc par exemple aussi, donc la fleur, elle n'existe pas comme chose unique, parce que la fleur peut-être elle est composée de beaucoup de choses différentes. Par exemple, elle a différentes pétales, donc en fait c'est tout cet ensemble de pétales que l'on appelle la fleur. Mais il n'y a pas donc une fleur unique, parce que c'est donc un ensemble de toutes ces pétales différentes. Encore, si on prend une pétale, le pétale de la fleur non plus n'existe pas en tant que chose unique, parce qu'il peut aussi être divisé encore en différentes parties. Et ces différentes parties de ce pétale encore peuvent être divisées jusqu'à ce qu'on trouve des tas de particules différentes. Et ces particules encore, les unes après les autres, on peut les diviser encore pour trouver des particules plus petites. Et ces particules plus petites encore peuvent être divisées pour trouver des particules de plus en plus subtiles, de plus en plus fines. Même si on arrive à trouver une particule qui est très fine, si elle existe encore d'une façon dimensionnelle, si elle a une dimension, elle va donc avoir des directions, un devant, un derrière, etc., un haut, un bas, et donc elle peut encore être divisée. Et de cette manière, on peut diviser à l'infini, il n'y a donc pas de fin. Cette façon de diviser de plus en plus subtile. Donc, puisqu'on peut diviser comme ça à l'infini, on s'aperçoit donc qu'on ne peut pas trouver une seule entité qui pourrait être le blanc. On ne peut pas trouver une seule chose, une seule entité où on peut dire ça, c'est le blanc. Il y a, en divisant de cette façon, on arrive au-delà de. On arrive à quelque chose que l'on ne peut plus exprimer. On n'a plus de point de référence, on n'a plus de point de repère, on ne peut plus exprimer ce qu'il y a. Donc, on ne peut pas trouver une entité et dire ça, c'est le blanc. Et puisqu'on ne peut pas trouver une entité qui est le blanc, puisque le blanc ne peut pas exister en tant que un, il ne peut pas non plus exister en tant qu'un ensemble de différentes choses.
The same is expressed in the Heart of Wisdom Sutra, saying there is no form, there is no sound, there is no smell, there is no taste, there isn't anything to touch. Saying this is based on the understanding that there isn't any one entity in each of the sense faculty that presents itself to the sense faculties. There isn't a oneness, an entity that we can refer to, and whatever we perceive is beyond one and many. And then this understanding arises to say there isn't any form as such. There is no form, there is no sound, there is no smell, there is no taste, and there isn't anything to touch.
Donc de la même manière, quand il est dit dans le Sutra du cœur, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût, de saveur, il n'y a pas de sensation tactile, de choses que l'on peut toucher. Donc c'est la même chose qui est dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule entité qui puisse être appréhendée comme étant unique donc, par les facultés des sens. Il n'y a rien qui existe de façon unique.
Ti zunzeni la tik to raje repete na yang samoyongre ti tik to raje ti chore.
So doing a research like we presented now in applied to the perceived object and the perceiver, looking for the perceived object and the perceiver as to whether they are existing as one or as many. And this also becomes like a very profound approach.
Donc cette manière d'examiner, donc de chercher où est l'objet qui est perçu et la conscience qui perçoit, c'est une façon, c'est une recherche qui est très profonde, c'est une façon de d'examiner qui est très profonde.
Tene jova ye pate mamik mik pe jova re mamik mik pe jova de kar re sa na ta zoa mamik pe zemba ya mamik zungze ni mamik pare zungze ni mamik pe ni mi ji chui nga ni mi je wo sar mik pa ke ya me pa ten da wo ma yin ba ni mi je wo sar mik pa se ni mi ji chui nga mik pa ni mi je wo sar mik pa zungze ni len de pe wo sar ji nga
The fourth application is called the focusing on what is not to be focused on, or like the focusing on what is not visible. And this refers to the understanding change so far that neither there is an object as a point of reference existing outside, nor is the mind perceiving that object existing as such. So being there no perceived object as such and the perceiving mind as such, then focusing on the very fact of them, both of them being not truly existent, then this focusing is not focusing on the nothingness. It's not focusing on just a blank vacuum. It is focusing on the luminous clarity, on the luminous clarity being free of duality, free of the idea of an object and a subject.
Donc la quatrième sorte de concentration ou d'application, c'est la concentration sur un objet qui n'est pas visible. Et donc ça veut dire que cette concentration est basée sur la compréhension qu'il n'y a ni objet extérieur perçu, ni conscience intérieure qui perçoit l'objet. Donc, quand on se concentre sur le fait donc, que l'objet perçu et la conscience qui perçoit n'ont pas d'existence réelle, donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce genre-là de concentration, mais ce n'est pas une concentration sur quelque chose qui n'existe pas comme un néant ou comme quelque chose de complètement vide. C'est une concentration sur la claire lumière donc de l'esprit qui est au-delà de toute dualité, donc sujet-objet.
Could you say then what is to be done here at this fourth application is to rest within what is not visible in this luminous clarity, precise clarity that is without any sense of duality of object and subject, perceived and perceiver.
Donc la façon de méditer ici, c'est donc de laisser l'esprit demeurer dans cette claire lumière, dans cette claire lumière qui est vide de dualité sujet-objet.
Tene zumbi nimi am ni de tomba te tongjang me ga tsam tang tu pa tar tsam yina tene sang je pa ka to ka da chen ga je na wa char we jum chin sar po me bre jum chin ji ya si gre pe na nam ka tong ba lan ja tong char wa ta
peko se na yang nam ka tong ba la ja chong kya wa la sar cha wo da wo me na de ne mu na 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 ja chong kya go yo ma de sar cha ji go bi di se na de ne ko tai chen kan je na ma kya wa la zo de ni mi de we sa ma yin na ko tai chen kan je na ma kya be jun chen sa ko me ba re je chen sar po ya po me ba
if on the other hand then this absence of perceived and perceiver, that non-duality without perceived and perceiver, if that was just a mere freedom from conscience, a mere freedom from any mental deliberation, or a mere nothingness, then there was no good reason why actually there are the bodies of the Buddha and the the bodies of the Buddha and the pure Buddha fields could arise. There was no reason why and the primordial wisdom, the bodies of the Buddha, primordial wisdom and the pure Buddha fields. How should that arise if the absence of duality was just a mere nothingness, just a mere freedom of concept? And this we can understand maybe with an analogy, if we have a rainbow rising in space, okay, the space is like that, nothingness. But if there was only space, then the rainbow couldn't arise. It needs the luminosity to produce the appearance of a rainbow within space. So in the same way, the absence of duality cannot be just a mere nothingness. Otherwise, there won't be any good reason for why the Buddha, the appearance of Buddha in the three bodies, or the primary wisdom of the Buddha and the pure Buddha fields could arise.
Donc on a vu que la quatrième sorte de compréhension, c'est donc la quatrième sorte d'application. C'est donc se concentrer, rester l'esprit, demeurer dans cet état qui apparaît quand on a donc réalisé, quand on a compris l'absence de dualité du sujet et de l'objet. Mais cet état donc d'absence du sujet et de du sujet perçu, du sujet qui perçoit et de l'objet qui est perçu, n'est pas une simple absence d'élaboration mentale, n'est pas un simple néant. Parce que si c'était seulement un état de néant, donc il ne pourrait pas y avoir l'apparition des corps du Bouddha. Il n'y aurait pas de raison pour l'apparition des différents corps du Bouddha, pour l'apparition de la sagesse primordiale et pour l'apparition, la manifestation des différents champs purs des Bouddhas. Donc, les corps des Bouddhas, la sagesse primordiale et les champs purs ne pourraient pas apparaître s'il y avait une sorte de, s'il y avait un néant, s'il n'y avait absolument rien. Donc si cette absence de dualité sujet-objet était une sorte de néant, ces trois choses ne pourraient pas se manifester. Et pour expliquer cela, Rinpoche prend l'exemple de l'arc-en-ciel. Donc l'espace qui pourrait être donc comparé à cet état de néant, si l'espace était complètement vide, s'il n'y avait pas un aspect de luminosité, de clarté, l'arc-en-ciel, les arcs-en-ciel ne pourraient pas apparaître. Mais l'arc-en-ciel apparaît dans l'espace, dans le ciel, parce qu'il y a la lumière, parce qu'il y a cet aspect lumineux, de clarté, qui fait que l'arc-en-ciel peut apparaître. Donc, de la même manière, dans cette absence de dualité sujet-objet, il y a un aspect de clarté, et grâce à cet aspect de clarté, les champs purs des Bouddhas, les corps des Bouddhas et la sagesse primordiale peuvent se manifester.
And Lord Dona, you are the Korinthi. A chak in Nama Yinde, Tintiki, Sir Zuma Yorke Nama, Fernando Mepan, put the Nama Yinde. Fernando Yinde, Tintiki, Zuma Yorke, Zuma Sir Dogma, Mepan. Zuma Sir the Madhu Tinti
The reason that there are just delusive appearances arisen through, by the reason that there are just delusive appearances arisen through the power of our habitual tendencies, by the reason that there are appearances that there are, that arose through the power of our habitual tendencies, whatever appears to the object as object of our senses proves to be just a delusion or delusive appearance. This is the first certainty to gain. Then secondly, by the reason of being delusive appearance, mere delusive appearance, then that what appears is not existing outside materially. This is the second confidence to gain. And then through the understanding and through the reason that there isn't anything materially existing outside as a point of reference, then the inner perceiving mind cannot exist as such as well. This is the third type of confidence to gain. And finally, through the reason that there is no object as a reference and the inner perceiving mind, both of them not existing substantially true or real, to focus on the non-dual luminous clarity. This is the third type of confidence. Viewing, this is viewing at this luminous clarity, which is a non-dual, is that's at this, at the situation or like at the moment when we develop the view. A view point or a view means to look with the eyes of one's wisdom or understanding, with the eyes of one's intelligence, at what is true, what is real. However, this viewpoint, viewing reality for a beginner can only take place in the way that he gains a confidence, a certainty through indirect knowledge, through correct logical inference, reasoning. More he cannot do as a beginner. This is the type of view existing as the four types of certainty that you can achieve in the beginning.
Donc pour revoir tout cela un peu en bref, donc ces quatre applications, on peut dire que c'est aussi quatre sortes de confiance, de certitude qu'il faut acquérir. Donc d'abord, il est dit, à cause des tendances habituelles, tous les phénomènes qui apparaissent nous apparaissent de façon illusoire. Donc ça correspond à la première application. Ensuite, parce qu'il y a toutes ces apparences illusoires, les objets extérieurs ne peuvent pas exister réellement. Il n'y a pas d'objet extérieur qui existe réellement, puisqu'on a vu que tout ce qui apparaît est illusion. Troisièmement, parce qu'il n'y a pas d'objet extérieur qui existe en tant que tel, il ne peut pas non plus y avoir de conscience, d'une conscience intérieure qui perçoit ces objets extérieurs. Quatrièmement, puisqu'il n'y a ni objet extérieur perçu qui existe réellement, ni conscience intérieure qui perçoit qui existe réellement, il y a ce qu'il reste, cette absence de dualité, sujet-objet, c'est la claire lumière non-duelle. Donc ça, c'est la vue qu'il faut avoir. La vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder avec l'œil de l'intelligence, regarder avec l'œil de la compréhension, regarder ce qui est vrai, regarder la réalité. Donc, pour un débutant, ce qu'on peut faire, c'est regarder cette réalité d'une façon inférentielle, c'est-à-dire en s'appuyant sur des perceptions valides, inférentielles, en essayant d'acquérir donc une compréhension intellectuelle. Donc une certitude que cette réalité est bien de cette façon. Donc c'est ce que le débutant peut faire, c'est à l'aide de ces quatre certitudes, il peut acquérir ces quatre certitudes, il peut regarder la réalité donc à l'aide de son d'une compréhension intellectuelle.
Relating this to the intention of the master of yogis, Milarepa, he has said, the view is the empty primordial wisdom. Meditation is luminosity without grasping. Behavior or lifestyle is a continuity without attachment. And the result is the immaculate, naked one. So this explanation of the of Milarepa is totally in harmony with the intention of the Dhamma-Dhammata-Vibhaga, the distinguishing phenomena from their true nature.
Donc Rinpoche maintenant cite une strophe de Milarepa qui est tout à fait en accord avec ses enseignements donnés dans ce texte qui s'appelle donc faire la distinction entre les phénomènes et leur vraie nature. Donc le maître des yogis, Milarepa, a dit « La vue est la sagesse primordiale qui est vacuité, sagesse primordiale vide. La méditation est la claire lumière, la luminosité sans saisie, libre de saisie. La conduite est une continuité sans attachement. » Le fruit, le résultat est nu et immaculé.
Tene gonda nenger tos ki nenger chu in ne ngo nenger dan nenger chu ten di ti ten che te se ki na ten nenger ha ko mo dan
ten
di ko mo nenger dan nenger pe ko ni tong di ko
This evening, Rinpoche likes to present out of the same treatise, Dhamma-Dhammata-Vibhaga, what is called transformation. There are 10 steps or 10 aspects of transformation described in this treatise. And Rinpoche thinks that it would be helpful to explain the essence of that transformation and to explain transformation in the summarized form by an analogy.
Donc cet après-midi, Rinpoche va enseigner toujours un autre passage du même texte qui va parler de transformation. Il y a 10 aspects différents de transformation et donc Rinpoche va essayer d'expliquer l'essence de cette transformation en se servant d'exemples.
Dengazo sanje je komban dropa te nenjo dropa re. Soju chevo phakpa la nenjo. Papa yang rimba yin de nenjo tene sanju sam papa sanju sam ban nenjo sanju sam ba yang thar se ni tene sanje le nenjo ko nenjo ha ko
Actually, the whole process of gaining enlightenment, Buddhahood, could be described as transformation. First of all, we start as ordinary beings, and along this path, we have to transform ourselves into the superior, the noble being, the Bodhisattva. And those being a noble being, a superior being, again, there has to continue a transformation through the various levels. And reaching then the highest of those levels, again, the Bodhisattva has to transform into Buddha. So this all is a process of transformation that takes place.
Donc, Rinpoche dit par exemple, le fait d'atteindre l'éveil, c'est aussi un phénomène de transformation. De transformation, d'abord on est un être ordinaire et on va se transformer, devenir un être noble, un bodhisattva. Ensuite, le bodhisattva, en cheminant sur le chemin, en suivant les étapes progressives de développement sur le. Les chemins de Bodhisattva, il va se transformer en un être encore plus supérieur, et finalement, cet être-là va encore se transformer et devenir un Bouddha, et le Bouddha finalement aura atteint le parfait éveil, transformation finale.
Application, that is focus or orientation. Application, that there is nothing to focus on. Application, that the focuser is not to be found. And application to focus on that there is nothing to focus on.